Chapitre 35. Vous voulez de l'aide ? Me demanda Charlie depuis le haut de l'escalier.
Oh, ça va, je monte.
Bella grimpait déjà les marches 4 à 4. Si je trouvais l'apparition soudaine de Charlie inquiétante, Bella, en revanche, était folle de joie de voir son tout nouveau meilleur ami. Elle sauta, bondit, lécha. Je transbahutais les 3 sacs dans les escaliers en réfléchissant à toute vitesse. Aux dernières nouvelles, Charlie n'avait pas mon adresse. Où avais-je mis mon taser, bordel ? Puis je me souvins. Je l'avais posé. Sur l'étagère. Dans mon casier, pendant que je sortais les valises. Mon casier fermé à clé. Je faillis faire demi-tour, redescendre les escaliers. Faillis.
On dirait que vous avez eu une sacrée matinée, commenta joyeusement Charlie tandis que Bella et moi émergions dans la lumière grise du hall.
Je vis alors qu'un de mes voisins avait bloqué les 2 portes d'entrée en position ouverte. Des courses à décharger, certainement. Ça ferait un super titre dans le Boston Herald. Une jeune femme poignardée à mort pendant que le voisin remplit le frigo. Il fallait que je me calme. Je recommençais à avoir peur de mon ombre. D'après Bobby, Charlie avait passé la nuit précédente au foyer de Pine Street Inn, en conséquence de quoi il ne pouvait pas avoir déposé mon dernier cadeau. À nouveau en sa présence, je m'aperçus que Charlie n'était pas vraiment si grand que ça, ni baraqué, ni à son âge avancé menaçant. En fait, pendant que je posais par précaution mes valises afin d'être libre de mes mouvements pour me défendre, il s'agenouillait et grattait mon chien sous le menton.
Un policier a appelé le foyer pour poser des questions sur moi, dit-il d'une voix égale.
Vraiment ? Je suis désolée.
Ça m'a fait bien rire, d'être un suspect à mon âge. Quoi qu'il en soit, un des gars qui s'occupe du foyer possède une radio de la police. Évidemment, on s'est branché dessus après ça. Le central a donné cette adresse et comme je suis un petit curieux et tout, je me suis dit que j'allais passer moi-même voir comment vous alliez. Je ne peux pas m'empêcher de penser que tout ça est en partie de ma faute.
De votre faute ?
Quelqu'un me suit, dit brutalement Charlie. Enfin, j'en suis presque certain. Ça a commencé le jour où j'ai rencontré le commandant Warren et le capitaine Dodge à Matapan. Au début, je n'en étais pas sûr. Mais j'avais tout le temps cette espèce de sensation bizarre entre les omoplates. Je pense qu'on me suivait peut-être encore le soir où je vous ai croisé. Et je crois que cette même personne qui me suit sait quelque chose sur la tombe collective. Et peut-être sur vous.
Pourquoi sur moi ?
Parce que c'est vous l'explication de cette tombe, n'est-ce pas, Annabelle ? Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais tous ces événements tournent autour de vous.
Mon voisin choisit ce moment-là pour gravir le perron au petit trot, 4 sacs de course à la main. Il nous fit un bref signe de tête. Qui avait-il à remarquer ? Une jeune femme, un vieil homme, une chienne au comble de la félicité, et se dirigea vers l'escalier central. Charlie suivit des yeux ses déplacements, même si ses doigts continuaient à caresser les oreilles de Bella.
« Vous savez quelque chose au sujet de Matapan ? » dis-je à Charlie. C'était une affirmation désormais, plus une question.
Très lentement, il hocha la tête.
« Quelque chose que vous n'avez pas dit à la police. »
Nouveau hochement de tête, pensif.
« Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Marvin ? Pourquoi me suivez-vous ? »
« Je veux savoir, » répondit-il tranquillement. « Je veux tout savoir. Pas seulement sur lui, mais sur vous, Annabelle. »«
Dites-moi, » demandai-je brusquement.
Grossière erreur.
Charlie Marvin sourit.
« D'accord. Mais puisqu'on est amis maintenant, il faut que vous m'invitiez dans votre appartement. »
« Et si je refuse ?»«
Vous allez accepter, Annabelle. Il le faut, si vous voulez connaître la vérité. »
Il me tenait, et nous le savions tous les deux. La curiosité est un vilain défaut, me rappelais-je, mais la vérité était trop tentante. Lentement mais sûrement, j'acquiesçais. Je lui fis monter les escaliers en premier. Ça paraissait légèrement moins débile comme ça, je le gardais dans ma ligne de mire. J'avais les bagages à porter, expliquai-je. S'il me suivait, je l'assommerais probablement avec une valise sans le faire exprès. Il n'avait pas idée combien j'étais maladroite. Charlie accepta mon explication avec son sourire jovial. Il comprenait parfaitement, ne me défiait pas du tout. La longue montée de 5 étages, en portant des valises rien que ça, me donna amplement le temps de me maudire. Pourquoi avais-je oublié le taser ? Et comment avais-je bien pu me retrouver avec une chienne si peu psychologue ? Parce que j'étais pratiquement sûre que Charlie Marvin était une menace. De quelle nature ? Je l'ignorais. Bonne nouvelle cependant, j'avais la forme physique et la jeunesse pour moi. Le temps d'atteindre le palier du 5e, Monsieur Marvin respirait difficilement et se tenait le côté.
Il resta en arrière, j'ouvris le premier verrou de ma porte, le deuxième, le troisième.
« Mademoiselle est prudente, commenta-t-il.
On ne sait jamais. »
Ma porte s'ouvrit. Une fois encore, je le laissai entrer le premier, puis je bloquai ma porte en position ouverte avec la gigantesque valise.
« Dans ce type d'immeuble, commenta-t-il, on a l'impression que tout ce qu'on dit pourrait résonner dans l'escalier. »
« Oh, ce sera le cas, lui assurai-je. Les cris aussi, et nous savons qu'au moins un de mes voisins est chez lui. »
Il sourit d'un air plus contrit cette fois-ci.
« Je vous ai effrayé à ce point. »«
Pourquoi ne pas me dire ce que vous voulez me révéler, monsieur Marvin ?»«
Je ne suis pas la vraie menace, » dit-il posément.
Je songeais qu'il avait l'air un tantinet navré, triste même.
« Monsieur Marvin. »«
C'est lui, » dit Charlie en montrant un point derrière moi.
Bobby marchait, très vite. Didi parlait, très en colère.
« Vous n'avez pas fait les vérifications d'usage sur Charlie Marvin ?»«
Mais si, Sinkus s'est renseigné sur lui juste ce matin. Il est réellement bénévole au foyer de Pine Street Inn. Il avait un alibi pour la nuit dernière. »«
Ah, vraiment ? Et comment tu sais que le Charlie Marvin bénévole au foyer de Pine Street Inn est bien le même que le nôtre ?»«
Pardon ?»
Il faut y aller soi-même. Il faut montrer une photo. Je t'en foutrais des erreurs de débutant.
Ce n'est pas moi qui ai passé ce coup de fil,
protesta encore Bobby avant de laisser tomber. Didi était trop en rogne pour écouter. Elle avait besoin d'un défouloir et il avait le malheur d'être dans les parages. Ça lui apprendrait. Ils avaient passé un appel à toutes les patrouilles pour qu'on recherche un individu correspondant au signalement de Charlie Marvin. Comme il devait partir de ce qu'il savait, des agents convergeaient vers le foyer de Pine Street Inn, de même que vers Columbus Park, Final Hall, et l'ancien site de l'hôpital psychiatrique, tout lieu que Charlie Marvin était connu pour fréquenter. Avec un peu de chance, il le cueillerait d'ici une heure, avant qu'il ne se doute de quoi que ce soit.
« Ça n'a toujours pas de sens, »
grommela Bobby pendant qu'il traversait le hall à grandes enjambées.
« Marvin ne peut pas être l'oncle Tommy, trop vieux.
« On prend la mienne !»
dit Didi en poussant les lourdes portes vitrées.
« Elle est garée où ?»
Elle répondit. Il secoua la tête.
« La mienne est plus près, et puis tu conduis comme une fille. »«
Déjà entendu parler de Danica Patrick ?»
murmura Didi, mais elle le suivit au pas de charge vers sa Kronvik. Tandis qu'il montait en voiture, elle observa. « Charlie Marvin a menti. Ça me suffit. »«
Ça ne colle pas, »
insista Bobby en démarrant.
« L'oncle Tommy doit avoir la cinquantaine. » Charlie Marvin a l'air d'avoir franchi ce cap il y a au moins 10 ans.
Il fait peut-être seulement plus vieux que son âge. Une vie de criminel, ça vous vieillit un homme.
Bobby ne répondit pas. Il déboîta, mit le giro et fila plein gaz vers le foyer de Pine Street Inn. Je me retournai vers ma porte ouverte. Ne vis rien. Refis brusquement volte-face, les mains en avant, bien campé sur mes pieds, m'attendant à une contre-attaque. Charlie Marvin était toujours là, avec cette expression béate sur le visage. Je crus commencer à comprendre. Il entendait des voix. Pour rendre à César ce qui est à César, Bella semblait aussi avoir compris. Elle s'assit entre nous dans la minuscule cuisine avec un gémissement inquiet. « Mieux vaut tard que jamais, » lui dis-je. Les chiens sont totalement imperméables au sarcasme.
« Vous êtes très belle, » dit Charlie.
« Oh, je vais rougir. »
« Mais trop vieille à mon goût. »
Ça rompt tout de suite le charme.
Mais vous êtes la clé de l'énigme. C'est vous sa vraie cible.
J'arrêtai à nouveau de respirer, sentis ma bouche se dessécher. Il fallait faire quelque chose, attraper un téléphone, crier au secours, dévaler les escaliers en courant. Mais je ne bougeais pas. Je ne voulais pas bouger. Je voulais réellement, Dieu me vienne en aide, entendre ce que Charlie Marvin avait à dire. « Vous saviez, » murmurai-je.
« Je l'ai trouvé. » Un soir, il y a quelques années. Quand ils ont annoncé qu'on allait totalement raser les bâtiments, je suis revenu dire au revoir. Un dernier adios à un endroit où je m'étais promis de ne plus jamais mettre les pieds. Et là, j'ai entendu un bruissement dans les bois. Ça m'a intrigué. J'aurais juré qu'il y avait quelqu'un et puis, pouf, plus personne. Presque de quoi vous faire croire aux fantômes. Sauf que je ne suis pas superstitieux à ce point. Il m'a fallu encore 4 nuits d'exploration avant de repérer la lueur dans le sol. J'ai attendu sous les arbres. Jusqu'au moment où j'ai vu l'homme sortir de sous terre, éteindre la lanterne et disparaître dans les bois. Alors je suis parti chercher une lampe torche. Je suis revenu juste avant le lever du soleil. J'ai trouvé l'ouverture, je suis descendu dans la cavité. Jamais je n'aurais imaginé.
Ça m'a coupé le souffle. L'œuvre d'un grand maître. J'ai toujours su que ça ne pouvait pas durer.
Qui a fait ça, Charlie? Qui est sorti de sous terre? Qui a tué ces fillettes?
Il secoua la tête. 6 fillettes. Toujours 6, ni plus ni moins. Je vérifiais toujours, j'attendais toujours que quelque chose change, mais année après année, 2 rangées, 3 corps chacune. Le public idéal. Et je n'ai plus jamais croisé cet homme. Pourtant, Dieu sait que ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'avais tellement de questions à lui poser.
Vous les avez tués? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce qu'on a retrouvé dans le parc?
Il continua comme si je n'avais rien dit. Ensuite, évidemment, j'ai vu à la télé qu'on avait découvert la tombe. Encore une victime de l'urbanisation. Mais là, je me suis dit, ça va le forcer à se découvrir. Il va vouloir voir son œuvre une dernière fois. Alors j'ai recommencé à traîner dans le coin en espérant l'apercevoir. Mais je n'ai vu que vous. Et vous êtes une menteuse.
Pour la première fois, sa voix se fit plus grave, menaçante. Je reculai instinctivement. « Qui êtes-vous » demandai-je. « Parce que vous n'êtes certainement pas pasteur. »
« Ancien patient, grand amateur de tombes collectives. Et vous ? Qui êtes-vous ? »
« Je suis morte, » lui répondis-je brutalement. « Je suis le spectre qui hante le parc. J'attends que ce monstre revienne pour le tuer. »
Les yeux bleus de Charlie se plissèrent. « Annabelle. Annabelle Granger. Votre nom a été publié dans la presse. À propos de la fosse. C'est vrai que vous êtes morte. »
Et là, un battement de cœur plus tard, un sourire s'épanouit sur son visage.
Vous savez quoi? Je voulais absolument me faire votre copine, la fliquette blonde, dit-il vicieusement.
Je vis la lame briller dans sa main.
Mais maintenant que j'y pense, ma petite Annabelle, vous ferez très bien l'affaire.
Bobby décrivit à la hâte Charlie Marvin au jeune latino qui les accueillit au foyer de Pine Street Inn. Juan Lopez confirma que le Charlie Marvin auquel s'intéressait la police de Boston était bien le Charlie Marvin du refuge. Il y faisait d'ailleurs du bénévolat depuis 10 ans. Un point pour les gentilles. Sauf que Monsieur Marvin n'était pas là en ce moment. Il était parti environ 1 heure plus tôt. Non, Lopez ne savait pas où Monsieur Marvin était bénévole après tout. On ne le surveillait pas. Mais il était connu pour arpenter les rues, aller voir les sans-abri. La police ferait peut-être bien d'essayer certains parcs. Bobby lui assura que des agents étaient déjà en route. On recherchait Marvin pour un interrogatoire immédiat. Lopez parut dubitatif.
« Notre Charlie Marvin ? Celui avec des cheveux blancs broussailleux, des yeux bleus vifs, toujours le sourire aux lèvres, Charlie Marvin. Qu'est-ce qu'il a fait, mon vieux ? Voler aux riches pour donner aux pauvres ?
C'est une enquête officielle. Il s'agit d'un meurtre. »
« Non.
Si. »
« Eh ben, encore fringant, le papy. »
« Passez-nous un coup de fil si vous le voyez, monsieur Lopez. »«
D'accord, mais maintenant que vous m'y faites penser, à votre place j'irai voir du côté de Matapan. Vérifiez dans le parc de cet ancien asile. Vous savez, celui où on a déterré le truc. Charlie traîne dans le coin nuit et jour depuis que... Eh, vous ne pensez pas sérieusement ?»«
Merci, monsieur Lopez. On vous recontactera. »
Pendant qu'il filait vers Matapan, Bobby sortit son portable pour appeler Annabelle. J'anticipais le premier assaut de Charlie et esquivais sur le côté par automatisme, tandis que mon cerveau essayait de trier plein d'informations en même temps. Charlie Marvin était un ancien patient de l'hôpital psychiatrique. Charlie Marvin avait découvert la fosse. Loin d'en être horrifié, il était resté admiratif. Il semblait que Monsieur Marvin n'était pas complètement novice en matière de violence. En tout cas, il savait se déplacer avec un cran d'arrêt. Après sa première offensive manquée, nous échangeâmes élégamment nos places dans ma minuscule cuisine. Avant de m'être trop félicité, je compris que sa manœuvre avait parfaitement fonctionné. Il se trouvait désormais entre moi et ma porte ouverte. Il vit mon regard passer au-dessus de son épaule vers mon meilleur espoir de fuite et eut un large sourire.
« Pas mal pour un vieux crouton, » dit-il. « Je reconnais que ça fait des années, mais je crois que la magie est encore là. »
Bella recula dans mes jambes. Le poil hérissé, elle regardait Charlie, un grondement sourd dans la gorge. « Aboie, avais-je envie de crier à ma chienne. » Ce serait le moment de faire un peu de bruit. Elle, naturellement, continuait à gronder sourdement. Et je ne pouvais pas vraiment l'en blâmer, parce que 3 minutes après le début de ma première confrontation avec le mal, je n'avais toujours pas réussi à crier. « La peur peut paralyser les cordes vocales, » disait mon père.
Il connaissait vraiment bien son affaire. Charlie fit un pas en avant, je fis un pas en arrière et rencontrai le plan de travail de la cuisine. Cette pièce n'offrait vraiment pas beaucoup de place pour manœuvrer, mais j'avais déjà compris que je ne pouvais pas laisser Charlie me repousser plus loin dans l'appartement. La porte ouverte et le palier étaient mes meilleurs espoirs d'évasion. Je trouvais mon équilibre, me préparais à résister. Il était vieux, un cran d'arrêt n'était pas aussi inquiétant qu'un pistolet. J'avais mes chances. Charlie feinta en bas à droite. Je m'apprêtais à lancer un coup de pied en croissant. Bella bondit in extremis, et j'entendis mon imbécile de chienne héroïque glapir lorsque la lame de Charlie s'enfonça dans son poitrail. Téléphone. Téléphone, téléphone. Le répondeur se déclencha. Bobby entendit la voix d'Annabelle annoncer d'une voix guillerette. « Nous ne sommes pas là. Laissez votre nom et votre numéro après le signal sonore. »« Annabelle, » dit-il d'une voix pressante. « Annabelle, décrochez, il faut qu'on se parle. On a du nouveau sur Charlie Marvin. Je vais avoir du retard. Décrochez au moins le téléphone. » Toujours rien. S'était-elle lassée de l'attendre? Était-elle partie courir toute seule? Tout était possible avec elle. C'était peut-être pour ça qu'il avait aussi peur. Et merde, il freina brutalement. « Mais qu'est-ce que... » s'exclama Didi. Il la suivit. « Qui ?»« Marvin, il l'a croisée dans le parc hier soir. 20 contre 1 qu'il sait où elle habite. »